from the planet of dope shit, be the native tongue rocker, one plug, infinite.com. Get your tail hooked in the thoughts, Don Perignon free, back when ladies love to hear the MC. We be the necessary realism, why you be chicken, no mainstream, baby, what? Place it in your gut, guaranteed.
Chase you out of earth.
H2 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de vous retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette heure de sport qu'on va vivre ensemble sur Radio G. On est donc dans Génération Sport de 20h à 21h en belle compagnie pour commencer cette soirée en votre compagnie justement. Aujourd'hui, c'est notre retour puisqu'on n'était pas là depuis deux semaines. Voilà, dernière émission, je crois que ça remonte forcément fermé. Attends, excuse-moi, ça va, je vais allumer ton micro. Attends, tes micros donc blancs. Oui, donc tu disais.
Oui, ça fait 15 jours.
C'est ça, ça fait 15 jours, puisque quand on en rate une, ça fait forcément deux semaines.
Oui.
Donc voilà, donc ça remonte à fin mai à peu près, je crois, 27 avril, pardon. En tout cas, voilà, on est de retour pour votre plus grand plaisir, on l'espère, et on est toujours donc avec, vous l'avez entendu, Cédric à ma droite. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien, hein, parce que malgré ça, on n'a pas chômé.
Non, quand même pas.
On a pu voilà être au cœur de l'action pour faire une expertise un peu plus approfondie.
Oui, c'est vrai. Bah, on reviendra dessus.
Voilà. Hein,
oui, Lufab, vous avez été au match, messieurs, ça a été sympa.
Bon, le résultat, on
voilà. On a vraiment pas de peau à chaque fois qu'on se déplace.
Chat noir.
Ouais, on doit être un peu chat noir.
Vous l'avez entendu, Faustin est à ma gauche. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très très bien.
Ça a gagné ce week-end encore
ouais,
une fois?
Ouais, ça a gagné demi-finale de région là.
Du coup, attends, tu as gagné les demi-finales ou tu
as gagné les demi-finales.
Ok, donc tu es en finale.
Exactement.
C'est pas mal ça.
Ouais, c'est sympa. C'est
un premier trophée dans ta carrière peut-être.
Ah peut-être, on espère.
Ça va être sympa. Donc, on va revenir aujourd'hui dans cette émission. Ça va être quand même vachement axé du coup sport local, peut-être un peu plus que d'habitude puisque déjà il y a pas mal de choses à dire. L'UFAB, de toute façon, on va avoir votre ressenti sur ce match. On va revenir un peu sur le SCO avec cette officialisation de la relégation en Ligue 2. On va revenir sur les 8 ans du SCO en Ligue 1. On va parler aussi bien sûr de Cholet qui est pas forcément en forme, de l'UAB. On fera un point aussi avant les playoffs. Donc voilà, on parlera de plein de petites choses, mais aussi évidemment de la Croix-Blanche qui est plutôt bien au niveau du foot féminin, évidemment les résultats au niveau du rugby et du handball, mais surtout on va parler football gaélique avec nos deux invités du jour qui viennent représenter donc le club des Anjou Gaels, qu'on avait déjà reçu pas mal de fois, c'est vrai qu'il y a dans l'émission. Alors ils étaient venus déjà pour présenter dans un premier temps leur club, leur discipline. Après il y avait aussi eu des interviews pour promouvoir des événements. Et d'ailleurs ça va être le cas évidemment aujourd'hui avec donc nos deux invités qui sont avec nous. C'est vrai que peut-être je te laisse les présenter. C'est toi qui vas mener l'interview, oui. Alors pour nos auditeurs, on va un petit peu changer le
programme.
On va d'abord faire l'interview, et puis ensuite on passera aux actus locales et internationales. Je te laisse donc c'est vrai que présenter nos invités.
Bah, le plus simple, c'est qu'ils se présentent eux-mêmes, comme ça, ils vont pouvoir nous parler directement de leur parcours un peu sportif et.
Attention, excusez-moi, pardon, j'ai pas ouvert le micro. C'est bon.
Bonjour. Donc, je me présente Alexandre. Donc, je suis un joueur de Anjou Gaël depuis. J'ai fait ma deuxième année, haché, mais c'est ma deuxième année au sein du club. Donc, je suis un joueur donc de l'équipe masculine.
Très bien.
Et moi, du coup, c'est Noah. Donc, j'ai rejoint les Anjou Gaëls cette année, mais bon, c'est pas la première année que je fais du football gaélique. Du coup, j'ai commencé depuis toute petite et voilà. Donc, je joue dans l'équipe féminine des Draganges.
Donc voilà, les présentations sont faites. C'est vrai que je te laisse la main pour parler un peu de l'actualité.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avant de parler un peu plus du club en général. Mais si on a une émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un gros événement de football gaélique ce week-end. Donc le 13 de 9h à 18h. Au complexe sportif de la Baumette, il y a une double confrontation en fait. Enfin,
il y a deux championnats, on va dire. Deux championnats. Voilà. La Coupe Championnat de France féminine et Coupe Fédérale Homme. Donc on attend à peu près 200 joueurs, une dizaine d'équipes toute la journée. Le tournoi devrait commencer aux alentours de 10h pour des finales féminines et masculines aux alentours de 17h. Donc avec des matchs qui vont s'étaler sur toute la journée, sur une première phase de poule, généralement en matinée, et les phases finales dans l'après-midi.
Et dans les deux cas, ce sera des clubs qui viennent de toute la France ou...
C'est des clubs de toute la France. Donc, il va y avoir notamment, donc si je dis pas de bêtises, donc on a Clermont qui vient du côté masculin. Nous avons également Niort, nous avons Arthon, nous avons Le Mans. Donc on attend, des équipes de toute la France.
Faustin, ça te parlait toi déjà le football gaélique ou tu voudrais qu'on t'explique un peu qu'est-ce qu'il en est?
Ouais, c'est vrai que je connais vraiment très très peu ce sport de nom, ça me dit peut-être quelque chose, mais les règles.
Et pour toi, ça t'évoque quoi justement?
Ça me fait penser au football gaélique plus au rugby, j'ai envie de dire. En mode, ça vient du Royaume-Uni, l'Irlande, ce coin-là, je pense. Donc ça me fait plus penser à ça.
Il n'est pas loin, quand même.
Il n'est pas loin. Il y a de bonnes réponses.
Le football gaélique, c'est un sport originaire d'Irlande, qui est un mélange, en effet, entre le football, le rugby, mais pas que. Il y a plein de composantes qu'on va retrouver de plein d'autres sports tels que le handball, le basketball, des choses comme ça sur notamment des gestes techniques. Donc c'est un sport qui se joue sur un terrain l'équivalent de taille d'un terrain de foot à 11 contre 11 sur des matchs de mi-temps de 30 minutes et qui a la particularité donc d'avoir deux façons de scoring, donc soit une transformation qui va nous rapporter un point. Soit un but, donc il y a un filet sous les poteaux de transformation qui va nous rapporter 3 points, donc avec un goal qui va protéger la cage.
Donc voilà, c'est pour présenter un peu.
Et on peut rajouter que voilà.
Et ça se joue au pied et à la main, voilà, ça. Avec des gestes techniques différents.
Et par rapport au rugby, on enlève tout ce qui est plaquage et contact.
Voilà, donc avec la particularité entre la ligue masculine et féminine, la ligue masculine, il y a l'autorisation d'un contact épaule contre épaule pour essayer de récupérer le ballon. Là où les ligues féminines, elles, c'est zéro contact.
Ouais.
Donc du coup, bah, c'est forcément un gros événement pour le club. C'est la première fois qu'il l'organise ou
c'est pas la première fois qu'on organise une manche. C'est la si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on en organise deux à la fois et d'une si grande envergure. Donc on est plutôt content parce que ça démontre qu'on a au fil des années gagné en importance et en visibilité. Dans le domaine du football gaélique français, donc on est ravis, ce qui se concrétise aussi par un certain nombre de résultats et du côté des filles et du côté des garçons tout au long de l'année, on pourra y revenir. Et donc on est très content d'accueillir ça, donc on essaye de faire ça au mieux et ça fait plaisir avec un partenariat aussi bien accompagné par la ville d'Angers qui nous permet de bénéficier du complexe de la Baumette de façon avec au moins 3 ou 4 terrains pour pouvoir organiser tout ça. Donc on est super content d'avoir toute cette infrastructure qui nous permet d'accueillir toutes les équipes en même temps, un endroit à peu près central, et que la journée se passe au mieux et qu'on puisse tout simplement que toutes les équipes et tous les joueurs viennent, prennent du plaisir à venir et prennent du plaisir à jouer toute la journée à ce sport.
Parce que c'est vrai que le complexe de la Baumette, depuis qu'il a été refait, il est très attractif, je trouve, justement pour, on va dire, les sports entre parenthèses mineurs sur la ville d'Angers, qui ont souvent du mal déjà à trouver des terrains déjà pour s'entraîner. Et dès qu'on passe une étape au-dessus, qu'on doit organiser des championnats, ne serait-ce que régional ou départemental, des fois c'est compliqué pour trouver une salle ou un lieu.
Oui.
Et c'est vrai que là-dessus, la mairie, que ce soit par exemple, on avait vu pour le Quidditch, voilà. Il paraît qu'il avait utilisé le même terrain.
Pour des championnats de France.
Championnat de France, ça, ouais. Voilà. Donc c'est bien que la mairie derrière donne des coups de main et encourage l'essor de ces différents sports. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une visibilité qui est pas négligeable aussi.
Oui. Et nous, ça nous a permis, là, au fil des années, là, de passer des gaps où on a de plus en plus de joueurs qui viennent nous rejoindre. Là, c'est vrai que cette année, notamment, on a vraiment vu un gros gap au niveau des effectifs, à savoir que on arrive à avoir à l'entraînement au moins quasiment une vingtaine de personnes à chaque fois pour faire les entraînements. Donc les entraînements d'ailleurs ils doivent être en train de courir là justement, qui ont lieu le mardi soir justement au stade de la Baumette également. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir faire évoluer le football gaélique au sein du bassin angevin.
Et une petite idée de pourquoi un attrait d'un coup comme ça?
Je pense que c'est un peu de bouche à oreille. On a pas mal de personnes qui peuvent aussi venir d'autres sports. Certains joueurs qui ont eu une grosse blessure dans certains sports et qui ont du mal à y retourner et qui cherchaient un sport complet où y a à la fois de la course, à la fois de la technicité, à la fois du travail d'équipe. Donc on a capté ce type de joueur, mais je pense aussi que c'est dû au fait d'avoir essayé d'avoir de la visibilité, d'organiser de temps en temps. On organise aussi également des événements extrasportifs pendant des événements culturels, ouais, irlandais. Notamment à la Saint-Patrick,
c'est ça, la Saint-Patrick.
Où on a organisé encore cette année un petit événement autour de la culture irlandaise. Donc voilà, c'est un peu tout ça, cette visibilité. Et oui, en effet, enfin, le fait d'avoir été, à mon avis, aussi d'avoir pu intégrer le complexe de la Baumette pour les entraînements et pour nos événements, ça nous a, à mon avis, aussi pas mal aidé.
Et ça vous a aidé aussi, même vous en tant que joueur, peut-être à mieux vous développer.
Bah oui, parce qu'en fait, avant, on jouait au niveau de Belbeil. Donc on jouait sur un terrain de foot, ce qui est vraiment pas pratique au niveau des tirs à un point. Donc les tirs qui se font entre les deux barres des poteaux de rugby, c'est assez compliqué en fait de pouvoir visualiser
de
si le but il est vraiment comptabilisé ou pas. Et puis, c'est vraiment, enfin, sinon, on est obligé de rafistoler, en fait, des terrains. Oui. Puis après, au niveau de la taille du terrain aussi, c'est peut-être un peu plus réaliste.
Okay.
Et puis, bah là, on joue sur de la vraie herbe, donc c'est aussi agréable.
Mmh. Oui, puisque sur Belbeck, c'est un terrain synthétique.
C'est un synthétique, ouais. Et puis, on était sur demi-terrain.
Depuis qu'il a été refait. Ouais, ouais. Et mine de rien, c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions aussi pour... Ben, s'entraîner, ne serait-ce que les appuis, les choses comme ça, sur du synthétique.
Oui, oui, non, c'est pas la même chose. Et puis, bah, le fait d'avoir un terrain aux vraies normes aussi, c'est pareil, sur l'entraînement, sur la gestion des espaces. Parce que c'est un sport où la principal but, en fait, de la cohésion de l'équipe, c'est de créer des espaces, de tirer l'équipe adverse pour créer des trous dans la défense et pouvoir aller marquer des points. Donc, le fait d'avoir un terrain aux bonnes dimensions, bah, c'est très bénéfique, là, pour l'entraînement de cette phase de jeu.
Et puis, il y a peut-être par rapport à l'organisation, dans le cahier des charges, il y a peut-être des choses qui sont obligatoires d'avoir tel type de terrain ou...
Non. Pas en ce qui concerne l'organisation en soi de enfin ça j'ai pas participé et notre présidente en parle mieux Élodie mais je pense pas qu'il faut un minimum bien sûr d'infrastructures pour organiser mais il y a pas de choses rédhibitoires. L'avantage qu'on a principalement du point de vue de Belbeil, c'est aussi d'avoir un certain nombre de terrains, un nombre assez conséquent de terrains, mine de rien, 4 terrains, c'est pas rien, pour organiser l'événement, en fait, à un seul endroit. Là où on peut avoir, dans certaines phases, l'obligation d'envoyer les équipes de part et d'autre dans certains stades parce que on n'arrive pas à avoir des infrastructures. Donc ça, c'est très appréciable.
Ouais, c'est ça, on en parlait en off. Je crois que tu prenais l'exemple d'une finale.
Les finales fédérales, là, qui vont avoir lieu au mois de juin.
C'est ça, c'est plusieurs villes dans la Loire-Atlantique, c'est
ça. La Coupe de France, pas fédérale, c'est la Coupe de France masculine. Et donc, on va être obligé, de dispatcher entre différentes villes d'organisation parce que l'endroit où ça devait se lier.
C'est pas assez grand.
Il n'y avait pas un nombre de terrains suffisamment conséquent pour.
Et puis les week-ends sont pas extensibles, hélas.
Non, voilà. Sachant que les tournois généralement, donc sur notre, se passent souvent sur une journée, un week-end par mois à peu près. Il faut qu'on arrive à faire rentrer tous les matchs avec toutes les équipes dans une seule journée. Donc
là, ça va. Heureusement qu'il y a, on arrive sur les périodes d'été, les journées se rallongent, donc on peut garder un petit peu de temps le soir, mais c'est vrai que l'hiver, ça doit être moins évident. On va rappeler que c'est un événement qui est accessible gratuitement à tout le monde.
En entrée libre, pour tous ceux qui veulent venir voir, ça va durer toute la journée. Et puis, il va y avoir normalement du monde pour vous accueillir, pour vous expliquer les règles si vous avez besoin d'explications au cours des matchs. Et voilà, tout ce qu'il faut pour essayer. Notre but principal, de toute façon, c'est de faire en sorte que les joueurs et les spectateurs passent du bon temps et éprouvent du plaisir et sur le terrain et en dehors du terrain, à voir les équipes évoluer.
On va passer maintenant sur le volet un peu plus sportif. Comment ça se passe pour le club actuellement ou même sur la saison précédente?
Je laisserai Noah parler de l'équipe féminine. En ce qui concerne l'équipe masculine, donc on a eu de très bons résultats cette année, à savoir qu'on a quand même on a participé à deux phases de la Coupe fédérale sur trois et qu'on a gagné deux phases sur trois. Donc à chaque fois qu'on a été dans le tournoi, on a remporté la coupe. Donc ça, on en est très fiers parce que c'était donc la première étant la phase de Strasbourg, donc qui était le premier trophée que l'on remportait sur les manches fédérales. Et on était content de conforter ça par une deuxième victoire après à Niort. Donc la dernière manche. Donc on finit deuxième de la division 2. Donc on est très content d'avoir pu justement engranger l'expérience et d'avoir pu j'échappais le mot, réussir ces résultats, qui s'expliquent aussi par le fait que bah voilà, on a de plus en plus de monde qui nous rejoint, donc on arrive à envoyer à chaque tournoi des équipes complètes avec remplaçants, donc ce qui permet sur le terrain de se donner à fond et de se dire que bon bah voilà, on lâche rien, on y va jusqu'au bout, et puis bah si t'es cuit, t'as le copain qui est là pour prendre ta place, et voilà, et on tourne et on y va, donc on est très fiers de ce résultat.
Donc du coup, ce week-end, c'est quelque part dans la tête d'aller faire un coup à domicile.
Bien évidemment.
Au vu des résultats.
Jamais 203, comme on dit.
C'est ça, voilà.
Donc, le but, c'est de... Avant tout, c'est de prendre du plaisir en jouant. Et après, si on peut aller chercher une troisième victoire... on va pas bouder notre plaisir.
Ouais. Et du coup, par rapport tu parlais de classement, mais est-ce que ça aboutit sur quelque chose, une montée, quelque chose, ou c'est juste encore un trophée
Alors, ça va notamment avoir un impact sur les finales de coupe qui vont avoir lieu donc au mois de juin. À savoir que notre deuxième place donc nous donne accès à la deuxième division.
Ok.
Sur 3, si je raconte pas de bêtises. Donc voilà, donc on va entre guillemets là où les années précédentes on était en division 3, donc cette année on passe en division 2 sur les phases finales. Donc se confronter à des équipes avec un meilleur niveau, donc c'est pareil, ça permet d'évoluer, ça permet d'apprendre, ça permet de se confronter à ça, donc on a hâte d'y être aussi.
Et avant de passer à la section féminine, par rapport à ce week-end, est-ce que vous avez des ambitions particulières? Est-ce que vous connaissez peut-être les équipes que vous allez jouer?
Oui, bah alors après, on connaît à peu près toutes les équipes. Hein, le football gaélique est un petit microcosme, hein, donc on se connaît à peu près tous. On va pas fanfaronner ou quoi que ce soit. Je pense que on va essayer de faire, de jouer notre jeu, d'aller. De faire ce qu'on sait faire, et puis match après match,
okay,
d'essayer de donner le meilleur. Si on peut gagner et aller au bout, tant mieux, mais tant qu'on aura éprouvé du plaisir à jouer, de jouer notre jeu, et que on a vraiment donné le maximum sur le terrain pour essayer de gagner le match, si à la fin le score n'y est pas, au moins on n'a pas de regrets, quoi.
Ouais, ça va être accroché, quoi.
Ouais, le but c'est de rien lâcher.
Et du coup, Noah, pour la section féminine, comment ça se passe cette année?
Et bah, pour la section féminine, c'est un petit peu différent parce que déjà, nous, à Angers, on n'a pas une équipe entière. Enfin, c'est vrai que le foot gaélique, c'est déjà un sport qui n'est pas connu et qui est peu développé chez les filles. Enfin, comme le foot, comme tout ça, il y a moins de joueuses. Donc, du coup, nous, en fait, on a une entente avec le club de Niort, donc les Draganges. Donc là, normalement, sur l'événement de samedi, on sera nombreuses, donc ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on va pouvoir faire, comme le disait tout à l'heure, on va pouvoir tourner, on va pouvoir se remplacer, et ça, c'est vraiment appréciable, parce que c'est assez compliqué, des fois, pour les grands déplacements, quand on va à Bordeaux, à Clermont, à Toulouse, déjà, il y a peu de joueuses qui peuvent tout le temps se déplacer, mais enfin, on a quand même une bonne équipe solide qui est là et qui est très heureuse de jouer. Donc voilà, donc là on va être beaucoup, et bah l'objectif, comme le disait du tournoi de samedi, ça va être pareil, de prendre plaisir, surtout qu'on est à domicile, donc cette fois de bien s'accrocher, quoi.
Très bien. En tout cas les ambitions sont fixées. Ça va prendre du plaisir avant.
Oui, surtout. Oui.
Voilà, après, surtout prendre du plaisir.
Il va y avoir un autre aussi événement important, c'est les World Games qui vont avoir lieu aussi au mois de juillet, sur une semaine, et on a le plaisir d'envoyer quand même 6 joueurs
pour l'équipe de France.
3 en équipe de France et 3 en équipe Centre-Ouest.
Okay.
Parce que les particularités, c'est que c'est pas nécessairement des équipes nationales. Il peut y avoir des équipes d'une ville, comme New York, quand on va une seule équipe, ou des regroupements de villes, comme justement Centre-Ouest. Donc on a le plaisir d'envoyer 6 joueurs en tout au World Game.
C'est pas mal. Ouais. C'était Elodie, je crois, qui nous en a parlé.
Oui,
c'est la présidente, c'est ça.
Oui. C'est ça, Elodie, justement, qui va. Noah, qui va aussi, qui va au World Game.
Pas mal,
en équipe de France,
équipe développement.
Hyper intéressant.
Donc on est content, ça montre que en effet l'équipe Anjou Gaël commence à monter en régime, donc c'est cool.
Tant mieux.
Ouais, et puis ça permet justement de faire des échanges du coup à l'international. Et c'est vrai que bah, pour travailler tout au long d'une saison, c'est toujours un petit plus, que ce soit en tant que joueur qu'entraîneur. Enfin, ça permet de voir pas mal de petites méthodes différentes. Et puis forcément, le sport évolue tellement vite que bah
ouais, et puis ça apporte de l'expérience. Ça aide, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai que tout ce qui est stage EDF, un stage de sélection, ouais, c'est l'occasion de rencontrer des joueuses qui viennent de toute la France. Et c'est vrai que les coachs là-dessus, ils ont un super regard. C'est là où on progresse vachement, on apprend vachement de choses. Et puis on découvre un peu aussi des vraies tactiques qui finalement, dans les petits clubs amateurs, on n'a pas forcément ce même regard. C'est très professionnalisé, entre guillemets, même si ça reste un sport amateur. Oui.
Et du coup, ce qui va être bien aussi samedi, c'est que vous allez être un peu devant des proches. Vous allez essayer de ramener peut-être du monde pour vous encourager. C'est ça aussi l'avantage de jouer à domicile.
Oui, bah c'est ça le but de ramener un maximum de monde pour créer une émulsion, voilà, autour de ce sport. Et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir jouer aussi devant ses proches, de leur montrer, les proches, les amis, les collègues, et puis de leur faire découvrir, parce que c'est vrai que même pour certains, que ce soit des collègues ou des amis, on leur dit tu fais du football gaulique, c'est quoi? Bon, ok.
Ouais, c'est pas très magnifique.
Donc c'est ce qui fait aussi le côté chaleureux de ce sport, où tout le monde se connaît, toutes les équipes, on se retrouve. On s'est tous déjà vus, on se connaît, et même si ça a tendance des fois à chicaner un peu sur le terrain, parce que y a les enjeux, il y a l'engagement, des choses comme ça derrière. C'est toujours un bon moment de convivialité et de fête autour du sport, quoi.
C'est là où on retrouve pour le coup des valeurs du rugby.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, généralement, ça se règle sur le terrain, et après
ça boit autre chose. Ça boit des bières irlandaises, sans en citer évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le précise. Cédric, t'as peut-être des dernières questions?
D'autres événements, du coup, de prévus après, en termes de, peut-être de,
ben on va,
de
on
démonstrations, va. De, d'événements sportifs sur la ville d'Angers, qui sont déjà calés?
On sera présent sur tout Angers bouge, normalement, donc, quel événement sportif quand même en juin de cet été. Donc voilà, après on est toujours prêt à accueillir des nouveaux joueurs nous-mêmes pendant les heures d'entraînement.
Tu peux le rappeler comme ça si jamais il y a des gens qui sont
intéressés. Les entraînements, c'est le mardi soir à partir de 19h30, donc au stade de la Baumette sur le terrain B, donc le terrain qui est tout au fond, juste à côté du centre d'entraînement du SCO. Donc c'est tous les mardis soirs à partir de 19h30 sur pendant 2 heures. Et voilà, on accueille toujours avec plaisir des nouveaux joueurs qui connaissent, qui connaissent pas, à faire une petite démonstration et leur faire participer au cours, pour leur faire découvrir. Les événements, ce sera surtout des événements sportifs autour des coupes France et fédérales, donc à Nantes au mois de juin et puis les World Games au mois de juillet.
Bon il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Pour ce samedi.
Et puis encore de remercier le club, parce que c'est vrai que ça s'est fait très vite, l'organisation de l'avenue aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est pendant un week-end de 3 jours. Merci au club d'avoir répondu à
Merci de nous avoir reçus.
Avec plaisir. Les Anjougaïs sont souvent les bienvenus ici.
Oui, ce sont tous les clubs, j'ai envie de dire.
Donc c'est vrai, peut-être résumer les infos. Samedi,
9h-18h.
C'est ça, à la Baumette.
À la Baumette, entrée gratuite.
Donc voilà, championnat de France féminin et Coupe fédérale masculine. C'est ça?
C'est ça.
Pas trompé? Ok.
Tout retenu.
Parfait. Noah et Alexandre, merci d'avoir été avec nous dans Génération Sport. Quant à nous, on va se laisser avec une petite pause musicale. Et on se retrouve juste après. On va s'écouter Adèle et son titre Easy on Me. Et on se retrouve, comme je disais, juste après. I can't. C'était Adèle pour la pause musicale. Adèle et son titre Easy on Me. On est de retour dans Génération Sport. Vous nous écoutez toujours depuis le 101.5 FM ou bien sur le site internet de la radio www.radio-g.fr. On est toujours donc avec Cédric et Faustin pour parler sport local. On a pas mal de choses à dire puisqu'on a été absent pendant 2 semaines et il s'en est passé des choses. Messieurs, vous étiez sur tous les terrains, j'ai envie de dire, enfin surtout celui de l'UFAB, et puis surtout voilà, je crois que la finale de européenne de Cholet n'avait pas eu encore lieu.
Non,
ça. Donc c'était, on était, je crois que c'est ça, on était pendant l'émission, enfin c'était le lendemain de l'émission. On était encore en plein match de l'UFAB.
L'UFAB contre le Vendée,
et match que, bon, sans spoiler, qu'elles ont perdu, mais c'était apparemment un très beau match qui s'est terminé en prolongation. En tout cas, avant ça, on va parler du SCO. Et oui, puisque pendant ces 2 semaines, le SCO n'a toujours pas remporté un match de Ligue 1. Les Angevins ont concédé 2 nouvelles défaites face à des équipes qui disputent les places européennes. Contre Rennes, les joueurs d'Alexandre Dujeu y auront cru jusqu'au bout en revenant par 3 fois au score, mais le tournant du match fit basculer donc la partie lorsque le but égalisateur de Nian à 3 partout fut refusé pour une main de Baoya. Rennes alourdissait même la marque avec un but de Doku qui permettait aux Bretons de s'imposer 4-2. Alors cette énième déconvenue scoïste officialisait donc mathématiquement la relégation Ligue 2, même si évidemment elle était déjà un petit peu entérinée depuis un certain temps. La semaine suivante, c'est Monaco qui se déplaçait du côté de Raymond Kopa, privé de Wissam Ben Yedder. Avant la pause, c'est Golovin qui alluma la lucarne de Bernardoni avant que Baudou ne double la mise à l'heure de jeu. La réduction du score de Sima ne changera rien. 26e défaite pour le SCO qui pourra battre un nouveau triste record, celui du plus petit nombre de points sur une saison de Ligue 1, s'ils ne parviennent pas à décrocher plus de 3 points lors des 4 derniers matchs, puisque je crois que le record est à 17 et ils sont à 14, en sachant qu'ils vont jouer Marseille sur le prochain match. Alors messieurs, je voulais faire un petit point, on en a parlé justement il y a 2 semaines, on voulait revenir sur un petit peu ces saisons Ligue 1, parce que c'est quand même une page de l'histoire du SCO qui se tourne. 8 saisons en Ligue 1, c'est vrai que on donnait pas cher de la peau, je pense, en 2015, de ce petit club angevin qui arrivait dans l'élite assez longtemps après sa dernière participation. Et puis voilà, ils ont duré 8 ans. C'était un petit peu justement ce très beau modèle angevin, un club assez modeste qui arrivait par une belle structure à se maintenir, à rester un petit peu dans le ventre mou. Et malheureusement, donc on en a déjà parlé. On parlait avec Faustin c'était il y a quelques semaines. On parlait des articles sortis par l'équipe qui expliquaient un peu la genèse de cette descente aux enfers, avec donc notamment les affaires d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel de Saïd Chaban, et puis pas mal de choses, le faux rachat, le etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses, une tension surtout palpable en interne. Alors on va rester un peu sur le sportif avec ce qui s'est passé en Ligue 1. Avant de vous poser la question sur ce que vous retenez un peu de ces 8 saisons. Je vais faire un premier bilan, je vais vous donner les classements de toutes ces saisons-là. Déjà, par curiosité, est-ce que vous savez le meilleur classement du SCO sur les 8 dernières saisons?
C'est pas 10e, un truc comme ça, ou aux alentours de la 10e place?
Moi, j'aurais dit 8.
Ok, vous êtes toujours tous les deux pas loin, c'est 9e. Et c'était, pour le coup, lors de la saison de la montée, c'est-à-dire que c'était en 2016, à la 9e place. Évidemment, ça n'allait pas être cette année. Clairement, c'est la pire, évidemment. En tout cas, sinon, donc en 2016, 9e, ensuite 12e en 2017, suivi d'une finale, jumelée à une finale de Coupe de France perdue 1-0 contre le PSG. C'était aussi une très belle aventure pour les Angevins. Ensuite, ça a été un petit peu moins bien, 14e en 2018, 13e en 2019. Ça remonte un peu en 2020, époque Covid, avec une 11e place. Ensuite, 13e en 2021. 2022, 14e, on le sait, c'était il y avait une très mauvaise période sur le pro, enfin sur
ça commence à être la transition, quoi.
C'est ça, c'était avec un Batigle qui avait plus forcément beaucoup de ressources et qui commençait à avoir une longue série de défaites. Et puis cette année, donc 2023, 20e, y a pas de doute, hein, je crois, sur la possibilité du SCO d'être, si quoi, mathématiquement ils peuvent être Ils peuvent être encore 19e ou 18e d'ailleurs, même si ça paraît évidemment très compliqué au vu de leurs adversaires.
Il y a plus de barrage.
Oui, c'est ça. Bah, non, mais puis, de toute façon, non, mais pour l'honneur, tu vois ce que je veux dire, de pas être lanterne rouge, quoi. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces 8 saisons? Est-ce que vous retenez, voilà, la constance? Est-ce que vous retenez peut-être la fin pour avoir une vision un peu plus négative? Ou est-ce que vous retenez, par exemple, justement cette finale de Coupe de France? Qu'est-ce que vous retenez?
Moi, ce que je retiens, c'est quand même qu'on a formé pas mal de bons joueurs qui sont passés par le SCO. Voilà, Nicolas Pépé, je vais dire Colomboigny, mais pas du tout.
Pas du tout.
Topo Ekambi, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Voilà, des joueurs qui ont marqué le club. Moi, quand j'étais plus petit, du coup, j'ai adoré Cheick N'Doye.
Oui, c'est vrai.
Ce genre
oui.
de joueurs.
C'est vrai.
C'est ces années-là plutôt qui m'ont marqué.
Bah justement, après, je vous poserai la question sur les joueurs qui vous ont marqué. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu retiens de l'équipe en général?
Forcément, l'épopée en Coupe de France.
Ouais.
Comme beaucoup de monde. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au moins deux fois, on aurait pu être champion d'automne.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que.
On a eu souvent quand même des belles débuts de saison quand tout tournait bien.
Notamment en 2016, hein.
On se retrouve
vraiment bien au début.
On se retrouve. On est resté deuxième pendant 5-6 journées.
C'était même premier. En termes de classement, c'était impressionnant, quoi.
Peut-être pas champion d'automne, mais. En tout cas, pendant un temps.
Je crois que ça en était pas loin, hein,
écoute.
En termes de classement et tout, c'est quand même incroyable. Et c'était là où on voyait peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose dans ce club-là, parce qu'on savait très bien qu'on jouait le bas du tableau, milieu de tableau.
Ouais.
Sûr qu'on jouait la relégation, mais quand on regarde au final, on a toujours été aux alentours de la 13e ou 14e place.
Pour moi,
il y avait quand même quelque chose de très logique par rapport à l'ambition du club, aux moyens du club, et avec les joueurs qu'ils avaient. Quoi.
Moi, c'est ça que je trouvais impressionnant au début quand on est arrivé en Ligue 1, c'est qu'on n'a pas joué le maintien. Je trouvais qu'on jouait direct le milieu, ventre mou. Enfin voilà. Alors évidemment, ça nous connaît une étiquette d'équipe un peu ennuyante, mais en tout cas, on était en Ligue 1 et on a été content de l'être. Et c'est vrai qu'à partir de l'année dernière, où clairement, il a fallu cravacher un petit peu pour obtenir le maintien. Et on a senti clairement qu'il y avait un truc qui était cassé, parce que clairement sur les débuts de saison, je sais pas moi, 2017 justement, 2018, on se dit pas on se pose pas la question du maintien. Pour nous, c'est quasiment acquis, évidemment on fait gaffe, mais voilà. Et effectivement, tu parlais de cette finale, pour l'avoir vécu au Stade de France, et ça reste je pense alors j'ai pas vu beaucoup de gros matchs, mais ça reste mon pire souvenir dans un stade de foot. Parce que cette finale cruelle où on perd 1-0 dans le temps additionnel sur un contre son camp d'Issa Sissoko.
Sur un corner.
J'étais dégoûté. Clairement, j'étais au stade et j'étais dégoûté. Pourtant, en plus, il y avait plutôt du monde. C'était contre Paris et pourtant, il y avait un vrai... mais il y avait des vraies tribunes angevines, noires et blanches. C'était assez beau à voir.
Ils avaient tenu quand même.
Je crois que c'est Toko Ekambi ou Pépé justement qui fait un poteau. C'est ça. Et cette finale, je l'avais en travers de la gorge, parce qu'on arrive au stade où on se dit on va se prendre une branlée. Et en fait, on voit qu'il y avait moyen, quoi. Et depuis, ce fameux Issa Sissoko qui nous a crevé, on peut le dire, et qui depuis a arrêté sa carrière, le pauvre, je pense que c'est un truc qui a dû le marquer, parce que je pense qu'il a dû prendre quelques remarques sur les réseaux sociaux ou même en dehors après à cause de ça, parce que forcément c'est le truc qu'on retient un peu, c'est celui qui a fait ce malheureux geste. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est une finale qu'on retient, mais c'est vrai que c'est un peu triste de se souvenir d'une d'une compétition en fait qui n'est pas la Ligue 1, parce que j'évoquais plutôt d'abord la Ligue 1. Par rapport, voilà, vous parliez un peu déjà des joueurs.
Une chose qu'on n'a pas parlé non plus, mais qui est quand même important sur toutes ces terres-là, c'est quand même Stéphane Moulin.
Bah justement, ouais.
Qui a fait le taf pour qu'on puisse remonter, qui a toujours
trouvé
des solutions.
Il n'aura jamais connu de relégation.
Non, du coup, non.
Du coup, non, c'est ça qui est fou.
Et qui est en train de faire encore du super boulot à Caen, quoi. On peut lui aussi rendre hommage là-dessus.
C'est l'homme.
En ce moment là, on voit qu'il y a des entraîneurs qui sautent pour peu de choses il a tenu la baraque pendant des années.
Gros respect.
Il trouvait toujours une petite combine,
On lui doit beaucoup à Coach Moulin, c'est clair, sur ses 8 saisons. C'est son travail qui avait été recommencé pendant longtemps. et qui a été un peu bâclé donc dès qu'il est parti. Justement sur les joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous viennent à l'esprit? Alors j'ai fait une petite liste, peut-être deux listes différentes avec les incontournables du SCO, ceux qu'on connaît bien. J'ai mis Butel, Traoré, Ismaël Traoré, Romain Thomas, Pierre Capel, Vincent Monceau, Thomas Mangani, tu parlais de Chekendoy aussi. À noter que il y a des rumeurs comme quoi Vincent Monceau ou Ismaël Traoré seraient potentiellement de retour cet été. On verra. Et puis de toute façon, je sais pas si c'est les renforts les plus pertinents. En tout cas pour Vincent Monceau, le pauvre,
logiquement, on peut pas recruter.
Oui, c'est vrai.
Il y a encore cette affaire-là qui s'est rajoutée, mais
on va pas peut-être on n'a pas trop de temps. Mais oui. De toute façon, si on fait le volet extrasportif du SCO à chaque émission, on doit prendre 10 minutes et on a qu'une heure, donc c'est compliqué. En tout cas, voilà. Parmi les incontournables, c'était quoi le joueur qui qui incarnait plus le SCO, qui était plus fort, qui était le plus impressionnant, peut-être?
À mon avis, celui vraiment le joueur quand tu penses au SCO, c'est Mangani, je pense quand même. C'est le cadre qui a été là longtemps depuis la montée. Moi, c'est le premier joueur qui viendrait à l'esprit. Après, personnellement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le joueur que j'ai préféré pour moi, c'est Chekendoy.
Ok.
J'étais plus jeune, j'avais son maillot floqué, tout ça.
Bien sûr.
J'étais un grand fan.
Cédric.
Je suis pas trop d'avis en fait là-dessus parce que il y en a tellement en fait sortir un du lot, ils ont tous fait quand même le boulot à un moment. Ça s'est plus ou moins aussi bien fini. Après ce que je note c'est que on a pu aussi conserver des fois c'était difficile mais certaines petites pépites au moins une année de plus.
Ouais.
Au moins à une époque on avait quand même
un peu d'argent
mais surtout un bon sens dans le recrutement des jeunes qui montaient. Là je trouve que les deux dernières saisons
Unai il est pas du club, il a été bien recruté, trucs comme ça.
Même en interne je trouve que c'est une chose qui s'est perdue au fil des ans et on a peut-être pas fait confiance assez à nos jeunes ou ça.
C'est clair. Et puis, tu parlais de coach Moulin, mais on peut parler aussi d'Olivier Piqueux, qui avait fait un très très bon travail du côté du SCO et qui a beaucoup œuvré dans ces années Ligue 1. Et puis au niveau des révélations, des joueurs qui sont peut-être pas restés assez longtemps. Alors j'ai une belle liste là quand même qui fait une belle équipe de Ligue 1. Nicolas Pépé, donc ancien qui allait après à Lille ou à Arsenal et qui est actuellement à Nice. On a quand même Le Tellier qui avait rendu des bons services au SCO et puis qui est maintenant troisième ou quatrième gardien au PSG, qui aujourd'hui arrête les frappes de Messi à l'entraînement, c'est quand même pas dégueu. Bouffal, qui avait été révélé au SCO puis qui avait fait son retour après des passages à Lille et à Southampton avant de partir à Ryan cet hiver. Unai, du coup, plus récemment, qui est parti à l'OM. Ren Adelaide, qui a fait un très très bon passage, je trouve aussi, et qui est après parti du coup à Lyon et qui est aujourd'hui à Troyes. Toke Kambi, pareil, qui était un vrai buteur, un vrai homme de Ligue 1, qui est donc passé après par Villarreal, Lyon et qui est maintenant à Rennes. Justement à Rennes, on retrouve aussi deux anciens joueurs de milieu de terrain avec Santa Maria qui faisait beaucoup le travail avec Mangani notamment. Flavien Thé aussi qui nous avait gratifié de très beaux buts. Et puis Jonathan Bamba, on l'oublie un peu souvent, mais qui est passé par Angers et qui fait de très belles saisons du côté de Lille et plus récemment donc Mohamed Ali Chaud, qui est génération d'or 2022, on rappelle quand même, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a peut-être un joueur, parce que du coup peut-être on va dire que parmi les incontournables, leur plafond était quand même celui d'un club comme le SCO, c'est-à-dire un club de milieu de tableau de Ligue 1. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui vous a impressionné par peut-être sur une ou deux saisons pour voir à quel point il était fort? Moi, effectivement, je retiens quand même Ren Adelaide, que je trouvais assez impressionnant, en tout cas à Angers. Est-ce que vous avez des noms en tête?
Moi, j'aurais dit Pépé, quand même.
Ouais, Pépé aussi, ouais.
Ah, tu vois, je pense que même l'année où il part, il aurait peut-être mérité encore une année de plus, et je pense que son parcours à Lille aurait été meilleur encore, ou même en Angleterre.
Pour moi, c'est pas à Lille où ça coince, parce que Lille est bon, c'est plutôt à Arsenal,
Ouais, mais tu vois, une année de plus, tu vois.
Ouais, bien sûr, je comprends.
Pour s'acquérir un peu dans son jeu, à mettre pas mal de buts encore, plus facilement, avoir plus de temps de jeu, tout ça, et après, tu pouvais partir aussi directement soit en Angleterre. Ouais. De toute façon, je crois qu'il était déjà sur les tablettes quand il part à Lille, donc,
Donc voilà pour les joueurs. Donc toi aussi, Pépé.
Ouais, Pépé, ou peut-être un peu étonnamment, j'aurais dit Flavien Tay.
Ok.
Ouais, je sais pas.
Choix original.
Ouais, voilà.
C'est... Je prends. Donc voilà pour le SCO. On va enchaîner puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors pour terminer pour sur le foot angevin, la Croix Blanche, donc l'équipe féminine de la Croix Blanche, est en passe d'entériner sa promotion en Détroit pour l'année prochaine. Les Angevines, qui joueront aussi la finale de la Coupe de l'Anjou prochainement, doivent jouer un ultime match contre Changé la semaine prochaine pour valider cette montée en troisième division nationale. Et justement, le troisième échelon national, le SO Cholet aimerait bien y rester, mais la tendance n'est pas très bonne en National 1. À trois journées de la fin, les Choletais ne sont qu'à deux points du premier relégable Villefranche, alors que l'entraîneur Stéphane Rossi a été démis de ses fonctions la semaine dernière. La fin de saison s'annonce tendue avec un déplacement prévu à Paris pour y défier le Red Star, qui joue d'ailleurs les premiers rôles pour la montée en Ligue 2. On va enchaîner sans plus tarder par le basket, il ne nous reste pas non plus beaucoup de temps. Faustin, par quoi on commence? On a l'embarras du choix, on a un peu amorcé quelques sujets, mais par quoi on commence?
On va commencer par le AB.
Ben, pourquoi pas, vas-y.
Et donc, deux semaines d'absence, ça veut dire deux matchs joués. Le premier contre Aix-Maurienne, qui s'est soulevé sur une défaite angevine, 91-78, et un second gros match à domicile qui s'est fini sur le score de 93-91 contre Lille. Ils joueront vendredi contre les premiers du classement, Saint-Quentin, pour finir cette saison régulière. Pour rappel, les Angevins sont d'ores et déjà qualifiés en play-off grâce à leur victoire en Leaders Cup. Ils prendront donc la place du 9e pour affronter le 2e dans les play-offs. Si en cas de victoire. Cependant, en cas de victoire, ils peuvent encore finir entre guillemets naturellement, j'ai envie de dire 9e. Ils affronteront soit Saint-Quentin, soit ouais. Soit Chalon, qui sont actuellement à égalité premier et deuxième du classement.
Donc voilà, ça va être dans tous les cas un gros morceau pour...
Ouais, ça va être assez compliqué, mais bon, on l'a vu, ça peut être une bonne surprise de championnat le AB.
Ouais, exactement. Sinon pour l'UFAB.
Ouais.
Déjà après, donc tu nous fais un petit point sur les résultats et puis après on reviendra avec Cédric aussi sur le match que vous avez vu la semaine dernière.
Ouais, parce que du coup il y a deux semaines vous avez laissé en plein milieu d'un match palpitant contre Rouge-Vendée pour finir la saison régulière et ce match qui est allé jusqu'en prolongation s'est malheureusement fini sur une défaite 109-107 en faveur des Lyonnaises. Malgré une nouvelle très grosse perf de Alexis Peterson qui pour son dernier match de cette saison a mis 37 points, fait 10 passes D pour 45 d'évaluation. Les Angevines se sont quand même qualifiées pour les playoffs où elles ont affronté Villeneuve-d'Ascq. Le match 1 a été très dur pour les Angevines. On y a donc assisté avec Cédric. Il s'est soulevé sur le score de 103-74. Le deuxième match, c'était encore une grosse claque pour les Angevines qui sont inclinés 82-58. Voilà, c'est donc une fin de saison pour nos Angevines qui, mine de rien, ont, je pense, atteint les objectifs fixés au début de l'année.
Oui, je pense que ça reste quand même plutôt pas mal. Donc, elles ont terminé 6e, 7e, quand même.
Ouais.
7e du.
7e de.
Ouais, comme l'année dernière.
De phase régulière. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, messieurs, sur ce match, quand vous avez vibré, est-ce qu'il y avait du monde? Dites-nous, racontez-nous un peu.
En fait, comparé à l'autre match, parce que moi, j'ai eu la chance de connaître du monde qui était donc sur le dernier match de saison régulière. C'était sale comble.
Ouais.
Donc t'imagines l'ambiance du coup. Enfin,
oui, j'imagine que
c'était un truc de folie. Enfin, et là c'était un peu plus calme quand même.
Ouais.
Du coup, pour
ouais.
Donc bon, ça s'explique aussi. Match un mardi soir. La dernière fois c'était mardi, mais c'était pendant les vacances, donc il y a des petits facteurs comme ça qu'on fait. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que donc nous on était voilà dans les tribunes partenaires, parce que c'est le
Vous étiez en VIP,
qui nous ont invités à voir le match. On leur remercie encore.
Oui.
Ce qui était appréciable, c'est que, c'était l'ensemble de la salle qui encourageait.
Ouais.
Ça c'est la première chose moi que j'ai noté. Voilà, en termes d'ambiance sur le match, voilà, il y avait peut-être moins de monde, mais il y avait autant d'engouement. Après, je te laisserai peut-être plus revenir sur l'aspect un peu technique du match, mais bon, On a eu un arbitre qui était pas forcément impartial dans ses décisions. Il y a des fautes, voilà. Même moi qui suis néophyste du basket, quand tu vois une joueuse se faire ceinturer, c'est logique, il y a faute chez moi. Donc il y a eu des petites choses comme ça. Puis bon, c'est vrai qu'en face, il y avait quand même le deuxième de la saison régulière. J'ai trouvé, voilà, le premier quart, il était quand même assez équilibré. L'écart en termes de score était, je crois, il y avait deux, quatre points, c'est ça. Et déjà en fin de deuxième, ça devenait compliqué, puis ça a déroulé dans la troisième. Et après, ça a été dur. On a vu quand même du mental, j'ai trouvé, quand même, malgré ça. Ça a essayé des tirs à trois points. C'est passé plusieurs fois. On a eu des belles actions, quand même, malgré ça. Et puis, enfin, voilà, mon point de vue, bon, malgré que voilà une défaite, c'était quand même un bon moment de vivre, voilà, un premier tour, quoi.
Ouais, toi, moi, du coup, sur un point de vue plus tactique, c'était, je trouvais, un gros manque d'agressivité de nos joueuses, que ce soit défensivement, offensivement, où on laissait beaucoup d'espace, les joueurs, les adversaires ont pu prendre vraiment beaucoup de tirs ouverts. Et nous, en attaque, justement, on jouait pas assez, je trouve, proche du panier. Tu disais qu'on a pris des tirs à trois points qu'on a mis. Pour moi, on a pris peut-être un peu trop à mon goût. Vous n'allez pas assez finir proche du cercle, justement, provoquer des fautes, même si elles n'étaient pas tout le temps forcément sifflées. Voilà. Mais le bon point, je pense, c'est qu'en l'absence de Alexis Peterson, on a pu voir des joueuses comme Leïla Lacan ou Yasmine Bellet prendre les choses en main et faire un bon match.
Donc c'est plutôt positif pour la saison prochaine. Parce que j'ai vu des rumeurs de West France qui de toute façon envoie Peterson dans des gros clubs français, en plus de évidemment son implication dans la WNBA. Donc voilà, je crois que c'est Basketland notamment qui est sur les tablettes. Donc voilà, on suivra ça, mais c'est vrai que on se dirigerait vraisemblablement vers un départ de Peterson. À noter justement pour finir sur l'UFA, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, qu'on recevra du coup le mardi 30 mai prochain.
Normalement, oui.
C'est ça, on recevra normalement donc Aurélie Bonan, la coach de l'UFA, qui viendra avec nous pour revenir sur cette saison. Donc ça va être assez intéressant.
Juste après le match, voilà, il y a eu un petit discours de la part du président, voilà.
Pour dernier match à domicile.
Dernier match à domicile, voilà. Globalement, ce qu'il disait, c'est que il s'attendait quand même à ce que la saison soit compliquée avec le fait du changement d'entraîneur, voilà, quasiment en début de saison, le fait que, du coup, c'était pas son équipe.
Ouais.
Ils sont quand même ravis, voilà, du parcours, enfin, refaire.
Et puis, ils vont pouvoir bosser la prochaine
chose. Et puis, voilà, ce qu'ils disaient, c'est que, maintenant, ils ont toutes les cartes en main. Sauf surprise, il n'y a pas de départ, normalement, de leur coach. Donc,
on lui posera les questions. Mais en tout cas,
voilà, non, c'était une année aussi qui, de base, de toute façon, t'aurais été piégeuse, puisque tu devais confirmer ta deuxième saison.
Tu jouais en Europe.
Enfin, voilà, c'était intéressant. Donc, de leur point de vue, ils sont quand même ravis de la saison, malgré que voilà, elle soit arrêtée là. Ils auraient aimé un match de plus,
mais oui, bien sûr,
deux matchs de plus. Mais bon, voilà, c'est l'allure du sport.
C'est ça. Rapidement, donc il reste 5 minutes. Faustin, un petit point sur Cholet qui est pas forcément en forme.
Non, parce que Cholet ont perdu donc la finale de Coupe d'Europe FIBA. C'était le match retour se jouait à la Meyre, ils avaient 4 points à rattraper et comme je l'ai dit, ils sont inclinés 80 à 78, même si la défaite reste qu'anecdotique.
Tu vas y arriver.
Ouais, anecdotique. Je crois que c'est bon là. car la fin du match n'a pas été coachée dans le but de remporter le match, mais plus de rattraper ces 4 points. Par ça, en championnat, ils galèrent aussi parce qu'ils ont enchaîné deux gros matchs en Betclic Elite. Le premier contre Monaco, qu'ils ont perdu 94 à 86. Et le second contre l'ASVEL, encore une fois une défaite, cette fois 98 à 69. Ils se retrouvent donc à la sixième place alors qu'ils étaient restés troisième pendant un certain temps de la saison. C'est dommage qu'ils aient autant de défaites en fin de saison comme ça, sachant qu'en ce moment ils jouent contre Le Portel, ils perdent 37 à 43 à la mi-temps. Voilà.
Ok, très bien, merci pour ce.
Et aussi, il joue vendredi contre les Mets à la mairie et je serai présent.
Pour voir un Wembanyama.
Voilà, exactement.
Exactement. Pour finir sur le local, donc deux petits résultats, notamment vous parlez de handball avec le SCO Handball qui a gagné encore une fois ce week-end un 18e succès contre Pau à 35-34. Il restera deux journées avant les playoffs. Donc les deux journées, ce sera contre Martigues, puis contre la réserve du PSG. Et puis en rugby, malheureusement, c'est terminé pour l'équipe masculine qui s'est inclinée contre Plouzané 31-18. Et donc les SCOistes qui resteront en Fédéra 3 la saison prochaine. Rapidement, encore une fois, je vais essayer d'être très rapide sur l'international, vous dire évidemment qu'en Ligue 1 on a eu affaire à une grosse journée avec notamment la victoire de Lens contre l'OM 2-1, le match impressionnant entre Lyon et Montpellier, la victoire des Lyonnais 5-4 et puis la victoire tranquille des Parisiens 3-1. Ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions avec les deux demi-finales, enfin en tout cas la demi-finale qui commence à 21h, c'est celle entre le Real Madrid et Manchester City, et puis demain ce sera l'AC Milan et l'Inter qui s'affronteront à San Siro. Faustin, je vais te mettre un petit peu peut-être en difficulté, mais est-ce que tu peux nous faire un très 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 rapide point sur les playoffs si c'est possible? Il est 58.
Ouais, très rapide. Alors du coup, tous les matchs du premier tour sont terminés. On a tous les deuxièmes tours qui ont commencé, qui ont bien commencé. Ils ont tous joué 4 matchs. Le premier, c'est le Heat, donc contre les Knicks. Il y a 3-1 pour le Heat, qui, je le rappelle, était 8e à la base. Ensuite, on a les Celtics contre les Sixers. Les Sixers, dont Joel Embiid a été nommé MVP. Il y a 2-2 dans la série. Ensuite, on a Denver contre Phoenix. Pareil, 2-2 dans la série, la meilleure série pour moi depuis le début des playoffs. Les matchs sont incroyables.
Et donc peut-être là-dedans on aura le futur vainqueur.
Peut-être s'il garde ce niveau de jeu. Et enfin pour finir, on a les Lakers contre Golden State Warriors et c'est 3-1 pour les Lakers.
Très bien. Sinon, au niveau, on aurait bien aimé vous parler un peu de judo avec notamment les médailles françaises d'Amandine Bouchard, de Walid Kiar et de j'ai oublié son nom, mais en tout cas c'est pas grave. En tout cas voilà, on parlera de ça la semaine prochaine avec notamment des gros noms français qui vont disputer donc les tournois des championnats du monde lors de cette semaine. On va vous laisser avec le générique de fin, avec surtout les plans de vagabondes qui nous suivent juste après. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération.